Ils nous guettent, ils nous mentent, ils nous tourmentent,
ils nous tuent,
ils nous mentent, ils nous abattent, ils nous insultent.
Mettre la patte, alors je kiffe quand ça barre, quand les portes sont débordées. L'image t'émeuque, pas du côté de ceux qui croient encore au changement. Franchement, qu'est-ce qu'on parle de futur et d'espoir? Moi je te parle de guerre, moi je te parle d'ici et de maintenant.
Ni frontières, ni nation, ni armée. C'est ce que nous voulons, alors nous l'aurons.
Radio Labo, une émission sur Radio Méga, tous les lundis, de 18h15 à 19h, contre toutes les formes d'oppression et de domination, pour détruire ce qui nous détruit.
Ouais, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, attablé parmi nous, il y a Jean Genet. Alors, nous, c'est Gérard, présent à côté, et Romain, qui nous aide beaucoup à la technique. Voilà, beaucoup. C'est, voilà. La parole, je laisse à Gérard pour un passage. Gérard.
Oui, puisqu'il est attablé, je vais donc lire un passage de L'Enfant criminel. Comme ça, on sera déjà au cœur de la prose. Le passage dit « Or, je sais que la morale au nom de quoi vous poursuivez les enfants, vous ne l'appliquez guère. Je ne vous le reproche pas. Votre mérite consiste à professer des principes qui tendent à commander votre vie. Mais vous avez trop peu de force pour vous livrer tout à fait à la vertu, ni tout à fait au mal. Vous prêchez l'une et désavouez l'autre, dont cependant vous profitez. Je reconnais votre sens pratique. Hélas, je ne puis le chanter. Accusez-moi donc de lyrisme. Mais s'il arrive qu'un de vos juges, un greffier de tribunal, un directeur de prison dans ma poitrine, fasse éclore et s'élève un chant, messieurs, je vous en avertirai les premiers. Votre littérature, vos beaux-arts, vos divertissements d'après-dîner célèbrent le crime. Le talent de vos poètes a glorifié le criminel que dans la vie vous haïssez. Souffrez qu'à notre tour, nous méprisions vos poètes et vos artistes. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il faut une rare outrecuidance aux comédiens qui osent feindre sur la scène un meurtre quand il y a chaque jour des enfants et des hommes dont le crime, s'il ne les conduit pas toujours à la mort, les charge de votre mépris ou de votre délicieux pardon. Chacun de ces criminels doit s'arranger avec son acte. Il faut bien qu'il en tire les ressources même de sa vie morale, qu'il organise celle-ci autour de lui-même, qu'il obtienne d'elle ce que la vôtre lui refuse. Pour soi, et pour soi seul, et pour un temps très bref, car vous avez le pouvoir de lui couper la tête, il devient un héros, aussi beau que ceux qui vous émeuvent dans vos livres. S'il vit pour continuer de vivre avec soi, il lui faut plus de talent qu'au poète le plus rare. Bon, évidemment, c'est un texte qui laisse un peu pantois. Je ne sais pas si c'est le mot juste. On va écouter un petit peu de musique. Bon, donc il y a eu le passage, il y a eu la lecture de ce passage, là, et qui commençait très très bien parce qu'il parlait de l'enfance. Et j'ai deux, trois mots à dire sur l'enfance de ce Jean Genet, là, qui n'a pas été tout à fait banal, puisque sa mère là, n'a pas pu s'occuper de lui, et qu'à un an, il s'est retrouvé dans une ferme dans le Morvan, dans laquelle il est resté jusqu'à la fin de son école, jusqu'à la fin de l'école primaire, à 13 ans. Il est rentré à l'école à 6 ans, enfin bref, ce sont des détails. Et c'est un. Il en a été très, très perturbé parce qu'un jour, à l'école primaire, il était un bon élève. Il a fait une rédaction, en quelque sorte, et il fallait décrire sa maison. Et lui, il écrit sa maison comme si c'était la sienne. Et tous ses petits copains éclatent de rire en disant « Mais de toute façon, c'est pas vrai, toi, t'es un enfant adopté, t'as pas de maison. » Et c'est comme ça qu'il a appris une partie de son destin. Donc, il y a eu l'abandon de la mère. Et il y a certains commentateurs qui, ont fait des digressions. Le goût qu'il a eu pour le Mare Nostrum et pour la mer Méditerranée surtout, sans jeu de mots aucun, évidemment, et ça vient aussi de ça. Mais bon, il a quand même eu au départ le sentiment de l'abandon. Je pense que ça, il l'a vraiment eu, et très très jeune. Et il a dû en souffrir, bon, comme n'importe quel môme. Et alors, pour s'en sortir, eh bien, il s'est mis assez vite à la lecture. Et alors, c'est assez étrange, mais pour moi, le premier écrivain qu'il a pratiqué, c'est Ronsard, les poèmes de Ronsard. Et il a une espèce de théorie là-dessus. C'est un langage qu'il utilise lui, hein, parce qu'après, quand il s'est mis à écrire, il explique qu'il fallait qu'il utilise la langue des maîtres. Luc m'a rajouté après, il m'a dit « donc des torsionnaires ». Et en fait, c'est assez ça. Mais il a appris par le classicisme. Et en même temps, à son école, il a lu le Tour de France de deux enfants. Ça, c'est vraiment le début de sa relation à l'écriture. Parce qu'on va le voir un petit peu après dans la conversation. C'est complètement fondamental chez lui. Ses aventures physiques, ses aventures sensuelles, ses aventures émotives sont complètement de pair avec son aventure scripturale. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'explosion de l'écriture, c'est aussi l'explosion de sa vie. C'est une exigence de liberté. Il ne peut pas faire autrement. Moi, c'est ce que j'appelle une exigence, quoi. C'est du domaine du non-choix. Il y a des choses qu'il est obligé d'exprimer, et donc il arrive à l'exprimer très très bien. Alors évidemment, il y a des textes qui sont tout à fait connus, qui sont Le Miracle de la Rose ou bien Notre-Dame des Fleurs, qui l'ont fait connaître, hein, qui l'ont permis à sortir complètement du cycle d'emprisonnement. Mais moi, je préfère parler du texte le plus, pour moi, quoi, le plus achevé, qui s'intitule « Le journal du joueur ». Du voleur, pardon. Luc m'a corrigé à juste titre. « Le journal du voleur ». Parce que c'est, de mon point de vue, le texte le plus exigeant. Parce que dans les titres que j'ai cités avant, il y a une espèce d'explosion poétique, très raffiné d'ailleurs, qu'on trouve. C'est le seul écrivain du XXe siècle qui ait pu s'exprimer comme cela, alors que dans le journal du voleur, c'est tout à fait une autre composition, et il n'y a pas les mêmes explosions poétiques. Bon, c'est toujours une langue très très précieuse, dans le bon sens du terme, mais c'est surtout étonnant et émouvant d'en comprendre la construction. Parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de chapitre proprement dit, il y a des passages qui se suivent, et il y a beaucoup, c'est le texte le plus autobiographique qu'il ait commis, et donc là il y a beaucoup de personnages de ses amants qui passent leurs prénoms, les situations comme cela. Et au début, on ne comprend pas bien parce qu'il mélange les prénoms. Il passe d'un personnage à un autre sans dire qu'il va passer à un autre personnage. Et petit à petit, au bout d'une dizaine de pages, le lecteur attentif se rend compte qu'en fait, dans la phrase, comme il ne parle pas du même homme, il a changé de rythme et il a changé certaines images. Et ça, c'est vraiment très, très subtil. Bon, mais je vais laisser peut-être un peu le moment à...
Ouais.
Luc,
Ouais, vas-y. C'est quoi ? C'est-à-dire, Là, le langage des tortionnaires, c'est quand même Genet qui dit ça, dans L'ennemi déclaré. Voilà.
Ah oui, oui, L'ennemi déclaré, c'est un très grand texte. Là, oui.
D'accord. Bon. Autrement, là, je pense très important de situer tous les textes littéraires. Hein, peut-être très important. Voilà.
Voilà. Les situer comment? Qu'est-ce que tu entends par
mais, dans le temps, quoi. Le temps, c'est très important pour Genet.
Oui, parce qu'en fait, il a écrit... tous ses grands textes ont été écrits en très, très peu d'années. Ouais. Parce qu'il a été, incarcéré très jeune.
Ouais.
Donc, il a été d'abord dans un hospice pour les enfants assistés. Et après, il s'est quand même assez rapidement, à 13 ans, juste après son certificat d'études, qu'il a passé brillamment, évidemment... Il s'est retrouvé à Maitré. Maitré, c'était une colonie c'était une maison de redressement, en fait. Hein.
Colonie pénitentiaire.
Colonie pénitentiaire. Alors qu'elle était sans mur.
Ouais.
Il y avait des fleurs, il y avait des emplacements fleuris, comme ça, qui étaient infranchissables. Et par contre, il y avait une organisation en interne dans cette colonie de Maitré, donc, qui était très, très, où les enfants étaient très, très féroces avec, entre eux. Parce que les adultes, diriger les aînés, il y avait un responsable pour un groupe de 40, parce qu'ils ont été 200 à une époque. Donc il y avait un ou deux aînés qui étaient là pour un groupe de 40, et eux c'était vraiment les macs, c'était les marlous, quoi. C'était les chefs. Et en dessous il y avait les sous-chefs, qui étaient surnommés les vautours. Et tout à fait en bas il y avait les cloches. Et alors eux on pouvait tout leur faire. Et c'était un monde, avec la cruauté de l'enfance et de l'adolescence, qui fut vraiment implacable. Et ça a fomenté dans l'esprit de Jean Genet des réactions qu'après il aura apportées toute sa vie. Lui, son bagage, il n'a pas pu le poser comme ça. Non, il était trop lourd, il était trop gros, parce qu'il en a vraiment trop, trop, trop souffert. Et donc, après, quand il a vraiment commencé d'écrire, donc il avait déjà 33 ans, ça a été Notre-Dame des Fleurs en 1943. Après, Le Miracle de la Rose, c'était en 1946, donc il avait 36 ans. Après, il y a eu Querelle de Brest, un an après. Mm-hmm. Après, il y a eu Pompe funèbre, la même année. Mm-hmm. Il y a eu Le Journal du Voleur, encore un an après. Et après, malheureusement pour moi, il y a son dernier livre que je n'ai pas eu entre les mains, qu'il a écrit tardivement. Donc les deux années qui précèdent sa mort à Rabat, au Maroc. Non, il est mort à Paris, en fait, mais il est enterré à Rabat. Et ce dernier texte, il a écrit à Rabat, et il a écrit en 86. Non, 84, 85, parce que la dernière année, il n'écrivait plus. Mais à un moment, il avait pu se remettre à écrire. Donc ça, c'est pour les textes, les romans principaux. Mais là aussi, toute une création...
J'en parlerai après.
...théâtrale. Donc, Luc vous donnera les détails.
Uh-huh. Ouais.
Donc, de toute façon, je vous donnerai quand même la référence, à moins que vous vouliez la noter tout de suite. Il y a un livre formidable qui s'appelle « Jean Genet, une passion méditerranéenne », qui a été écrit par Caroline Daviron, D-A-V-I-R-O-N. C'est aux éditions Encre d'Orient. Je ne connaissais pas cette maison d'édition, d'ailleurs. Mais c'est facilement trouvable. Hein.
Mais le plus important, je reviens là-dessus, Tonnerre de Brest, y a très belle description des matelots. Très poétique. Très poétique. J'insiste, les lecteurs qui lisent ce livre, vraiment fabuleux.
Querelle de Brest, voilà. Pas Tonnerre de Brest. Hein.
C'est du transport.
Bon.
Je pensais au comité ad hoc.
Querelle de Brest, on le trouve dans la collection L'Imaginaire, qui est très connue chez Gallimard.
Uh-huh.
Et celui-là, il est de 47, donc il avait 37 ans quand il l'a écrit.
Uh-huh. Il parle des matelots d'une façon très, très belle là-dedans, ce bouquet. Donc, là, toutes les problématiques des matelots qui partent en voyage là. C'est un truc fabuleux. Voilà. Là, je te laisse la parole quand même pour continuer donc le pour continuer le descriptif de l'œuvre de littéraire de Genet. Hein, c'est important.
Ouais. L'œuvre littéraire de Genet, moi je l'ai découverte il y a quand même déjà une cinquantaine d'années. Ouais. Et j'ai pas eu très souvent l'occasion de revenir dessus, si ce n'est ces derniers mois, là, parce qu'on a travaillé ensemble, Luc et moi, ouais, sur ce personnage. Et je suis, bon, je suis toujours aussi étonné par ces trouvailles de langage. C'est vraiment... et là, bon, je ne peux pas plaisanter, quoi. Au XXe siècle, il n'y a pas d'équivalent comme créativité. Mmh. Et c'est très, très précieux comme écriture. Mmh. Même les premiers, Notre-Dame des Fleurs ou Le Miracle de la Rose, c'est incroyablement fin et précis. Bon, évidemment, après, il y a eu Querelle de Brest, après, il y a eu Pompe funèbre. Et moi, je reviens dessus. Donc, de mon point de vue, c'est quand même le journal du voleur qui apporte la plus grande précision sur le personnage qu'il fut et où il s'exprime avec sans doute la plus grande simplicité en même temps. Mmh. Et en même temps, le même côté libre. C'était un homme d'une liberté incroyable. Il ne laissait rien passer. Et donc, il défendait ses idées et en même temps, ses mœurs, sa vie. Il les présentait. Il n'en cachait absolument rien. Et il avait une manière d'embellir la laideur qui reste très, très émouvante. Quand il décrit les voyous qu'il a fréquentés, des fois, c'était des macros, des fois, c'était des petits gangsters. Et souvent, c'était des gens... Bon, il choisissait toujours de beaux mecs, mais c'était souvent aussi des lâches. C'était aussi, des fois, des petits minables. Et c'est tout à fait étrange de voir comment il transfigure les adjectifs qu'il utilise pour décrire la bassesse ou la petitesse de ses amants. Et en même temps, il en fait une embellie. Mmh. C'est un petit peu comme le rôle qu'il fait tenir au crachat. Le crachat, pour lui, c'est pas le très jeune, hein, quand il était amaîtré, sur lequel les aînés crachaient pour le vexer comme ça. Lui, il trouvait que ça lui créait comme une parure. Et il compare, ça revient très souvent dans son écriture, les crachats aux roses. Et la présence des roses, d'ailleurs, elle est permanente dans ses textes. On la retrouve très, très souvent. Donc, en fait, si vous voulez, ça reste un personnage, parce qu'après, je pourrais vraiment en parler beaucoup plus longuement, mais ça reste un personnage tout à fait étonnant quant à la qualité de l'imaginaire qui passe par le texte. Et ça, c'est quand même... dans la prose, hein. Donc c'est vraiment... Et alors, en même temps, bon, de lui-même, il parle de lyrisme quant à lui-même. Et moi, j'ai découvert très souvent des passages complètement oniriques aussi, où il se laisse... Il est pris par son texte, il est pris par la beauté de son texte, et il va très très loin dans l'imagerie.
Mmh. D'accord. Mais je reviens quand même sur le passage que tu as lu tout à l'heure sur l'enfant criminel. Ce texte, c'était travaillé pour la Radio France. Le texte était interdit pour d'antenne. Voilà. Mm. L'enfant criminel est le texte d'une émission sur la justice écrite en 1949 pour la radio diffusion française et qui fut interdit. C'est important parce que toute la vie de Genet, c'était tout le temps avec face à la brutalité, voilà.
Et en même temps, il faut pas il faut aussi se souvenir avec ce personnage que à partir de ses deux premiers grands textes, il a eu des défenseurs très très importants. Et ben, il y a eu Simone de Beauvoir, il y a eu Sartre, mais il y a eu Cocteau aussi. Et c'est eux qui sont intervenus au niveau du pouvoir et qui ont fait que ben, finalement il est devenu quasiment intouchable, cet homme. Il était devenu trop connu. Mais il y a eu aussi Violette Leduc, par exemple, qui était elle aussi très connue à cause de son roman La Bâtarde. Et c'était une amie de Simone de Beauvoir. Et il s'était fait un réseau d'amitié qui lui a été... vraiment, bon, j'aime pas le mot utile, mais qui a été importante pour lui. Mais, en même, mais aussi, il ne faut pas... Parce que là, je vais laisser la parole à Luc. Mmh. Il faut le, il y a tout le rôle du théâtre dans sa créativité.
On va côté, côté petit morceau de ska. Ça permet de alléger. That you're accustomed to. Oh yeah. Can't take you out to fancy places. Ooh. Like other fellas that I know can do. I'm only able to romance you. Je vais parler du théâtre de Jean Genet. Alors le mieux, enfin pour moi, je prends un texte de L'ennemi déclaré. Alors c'est une œuvre d'art, mais toute une mes pièces a commencé par les bonnes, jusqu'auparavant, sans quand même, d'une certaine façon, du moins j'ai la faiblesse de le croire. Tout de même un pôle politique. Dans ce sens qu'elle aborde la politique obliquement. Elles ne sont pas neutres politiquement. J'ai été amené à voir une action, non pas politique, mais dans un mouvement purement révolutionnaire. Voilà. Là, c'est beaucoup de passages, donc beaucoup de passages importants pour comprendre l'œuvre de Jean Genet, théâtrale. Il y a les lettres à Roger Blin. Qui c'est Roger Blin? C'est un metteur en scène, un acteur aussi. J'ai vu ce matin jouer dans Huis clos. Huis clos. Donc, sur Internet, bien sûr. Voilà. Et autrement, qui c'est Roger Blin, ami d'Artaud, metteur en scène, acteur, et ami de Jean Genet. Voilà. Roger Blin, c'est un mec, un homme. Pour moi, c'est un homme qui sait des choses. Il donne des indications. Alors, par exemple, des bonnes, pour les bonnes. Car les bonnes ne parlent pas ainsi que certains soirs. Il faut les surprendre, soit dans leur solitude, soit dans celle de chacun de nous. Voilà. Je pense que c'est bon, assez... pour moi, c'est un théâtre vraiment très, très fort. Parce que le. Donc, très. Bon, bien sûr, aussi, j'ai découvert les lettres de Roger Blin par un metteur en scène qui était à Valence à l'époque, compagnie Graffiti. Graffiti, qui est resté pendant 4 ans. Je nomme Philippe Gobiard, qui a réfléchi à partir des textes de Roger Blin, pas seulement, avec des textes de Jean Genet aussi, pour organiser le Belle Image, voilà, le nouveau théâtre. Avant, c'était le vieux théâtre de Valence, à côté de la mairie, donc théâtre italien, critiqué fort justement par Genet, voilà, par Roger Blin. Bon, je renvoie au livre Les œuvres complètes et voilà, œuvres complètes, L'ennemi déclaré. Voilà. Autrement, je vais envoyer au CIV, j'envoie ce lourd, parce que là, je vais aborder un texte qui a écrit Jean Genet, alors en 78, publié par le journal Le Monde, à l'époque. Il a écrit 77. Hein. Donc, Genet a publié l'introduction de livres des textes de la bande à Bader, voilà, pour dire. Donc, de suite, la population, enfin, tout le gratin intellectuel a pris parti contre lui, là-dessus. Bon, on accuse Genet anti-germanisme, non, primaire. Bon, bref. Là, c'est vraiment un texte hyper important pour moi. Violence et brutalité. Genet tient beaucoup de cette différence entre la violence et la brutalité. Pour lui, c'est très clair, le geste, alors, geste brutal est le geste qui casse un acte libre. Voilà, c'est très simple. Bon, réfléchis dessus. Et tout le texte qui explique dedans. Et aussi, il cite Ulrich Almanov, morte, pendue dans la cellule de Stalheim. Les flics essaient, par leur tactique de guerre psychologique, de retourner les faits que l'action de guérilla avait remis sur leurs pieds, à savoir que ce n'est pas le peuple qui dépend de l'État, mais l'État qui dépend du peuple, que ce n'est pas le peuple qui a besoin des sociétés par action des multinationales et de leurs usines. Mais que ce sont ces salauds de capitalistes qui ont besoin du peuple, que la police n'a pas pour but de protéger le peuple des criminels, mais de protéger l'ordre des exploiteurs impérialistes du monde. Que le peuple n'a pas besoin de justice, mais la justice du peuple, voilà, différence, n'est que nous n'avons pas besoin ici de la présence des troupes et des installations américaines. Voilà. Bon, c'est écrit dans 77, c'est peut-être, enfin, c'est important actuellement parce que là, le contexte international devient tendu vers l'Ukraine, la Russie, la Turquie, enfin, assez compliqué. Donc, je vous renvoie à ce texte, c'est assez important pour moi c'est un texte fondateur pour Genet. Et il y en a les brochures. La brochure de ce texte au laboratoire. Voilà. Autrement, je vais lire un morceau d'anthologie de Jean Genet qui parle par rapport entretien avec Tahar Ben-Mejmoul. Donc, il discute avec Tarak Ben-Mejmoul. Alors, il parle d'Arenc. Arenc, c'est la prison des sans-papiers à Marseille. Première découverte par les gens, prison clandestine pour les sans-papiers. Voilà. Les gens qui dit, il dit sans-papiers, c'est des gens touristes qui voyagent. Voilà. Ils viennent en France pour voyager et pas seulement. Voilà. Alors, qu'un travailleur immigré soit un homme, cela ne devrait pas être lu comme une inévitance. Pourtant, ici, tout le monde, l'administration particulièrement, voit ce que voyaient autrefois les paysans devant les mots nomades, gitans, vagabonds. À eux, l'entrée très temporaire ou la sortie du village à côté de la décharge d'Orture. Voilà. Un texte super clair. Hein. C'est très actuel. Là, dans cette discussion avec Tahar Ben-Mejmoul, un auteur bien connu, romancier, et il critique pas beaucoup la façon que les organisations bien pensantes pour enrober leur larme, voilà, pour dire, pour reprendre la terminologie. Voilà. Le plus important pour moi, bien sûr, tous les textes toutes les pièces sont très importantes. Principalement, c'est les paravents. Les paravents, il faut situer quand même la première représentation. C'était en 1966. Dedans, Genet a voulu montrer la brutalité de la France, l'unification entre la Révolution française. Je ne vais pas citer longuement pour retrouver le texte. Là, ils font une situation entre la Révolution française à 1835, l'invasion d'Algérie avec le Bey d'Alger. Voilà. Pour comment ils sont magouillés là-dedans. C'est un texte assez intéressant. Et aussi, donc les paravents étaient montrés en 66. C'était juste 4 ans après la fin d'Algérie. Voilà. Un mouvement très fort. Et je rappelle ici quand même les troupes d'Occident, l'extrême droite, ils ont manifesté pour interdire la pièce à l'époque. Ils ont là je reconnais un grand mérite d'un ministre de la Culture à l'époque. Ils ont protégé le théâtre face aux assauts des troupes d'ordre nazi. Voilà. Donc pour moi c'est important pour ressusciter. Bien sûr actuellement c'est pas le même sens. On montre les paravents. C'est vieux, c'est une histoire ancienne pour les gens, sûrement. Peut-être des gens qui pensent à la guerre d'Algérie. Bon, voilà. Peut-être. Mais aussi je pense important là-dedans, comment ça s'appelle ? Dans ce livre, donc, L'ennemi déclaré, il y a un grand moment de joie. De bonheur pour moi, et les photos de Jean Genet, du visage de boxeur, comme tu dis Gérard. Jean Genet, de visage de boxeur, petit, face au CRS, voilà. Bon. Et une photo avec Angela Davis. Donc, à l'époque, il faut rappeler quand même en 76, Angela Davis passait en procès aux États-Unis. Et c'était après la mort de Johnson, les Black Panthers, voilà. Et après ça, Angela Davis, courageuse, une femme très courageuse, respecte beaucoup. Mais à l'époque, les intellectuels français, très en vue dans la société, donc je n'ai pas la liste. Ça me gêne parce que pour citer des gens crapules, c'est pas bien. Voilà. Et eux disent on peut pas soutenir Angela Davis parce qu'elle est communiste. Et Jean Genet a pris sa plume pour faire une pétition pour défendre Angela Davis avec les intellectuels anglais. Alors les intellectuels français, à l'époque, c'était la bande de la voix. Nouvelle philosophie, voilà. Toute la bande. Actuellement, ils sévissent encore, hein. Voilà. Malheureusement. Le chantre, à l'époque, il est mort, mais ça. Voilà. Voilà. Donc, ces photos, pour moi, c'est un grand moment de joie. Et je vois une photo des manifs parmi les Black Panthers. Il faut rappeler quand même Jean Genet, il a écrit la pièce Les Nègres, très actuelle, et cette pièce a servi souvent pour les artistes qui voulaient, artistes metteurs en scène, pour comprendre sa pensée par rapport aux Nègres. Là, les Nègres, la pièce était fondatrice pour des gens, très nombreux, des metteurs en scène, très pointus. Voilà. Les Nègres, c'est une pièce de commande, parce que je n'ai dit ça. Bon, je sais pas, je commande, voilà. Les Bonnes aussi, Bonnes, c'est Louis Jouvet, commande. Et les Paravents, non. Paravents, c'était une pièce offensive, voilà, pour moi, pour lui. Autrement, c'est admirable. Jean Genet s'est trouvé souvent aux côtés des travailleurs immigrés. Donc, vous rappelez l'époque, même peut-être les gens n'ont pas vécu l'époque, peut-être vous pouvez demander aux vos parents, parce que on sait que enfin, les gens qui sont nés avant 80, peut-être, ils savent, peut-être trop jeunes, parce que il y avait des massacres, enfin, les nazis fascistes, brutaux, ils ont tiré sur les foyers d'immigrés vers Marseille. Voilà. Donc, pour dire, l'époque des chargés, parce que le Roland, enfin, c'est pour ça que le texte « Violence et brutalité », un texte hyper important pour moi. Là. Les pièces de théâtre, pour moi, c'est important parce que la Genée, à la fin, il dit bon, après tout, pourquoi ? Bon. Et faut dire, alors, un passage aussi, une chose, alors, le temps, chose sacrée. L'une chose est sacrée pour moi, j'emploie bien le mot sacré. Sacré, c'est le temps. L'espace ne compte pas. Un espace peut. Excuse-moi. Réduire ou s'augmenter énormément. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais le temps, j'ai eu l'impression, et je l'ai encore, qu'un certain temps de vie à ma naissance m'était donné. Donné par qui ? Ça, je sais pas, évidemment. Mais il semble donné par. Mais de toute façon, n'imaginez pas un dieu, même s'il s'agit d'un dieu qui danse, n'imaginez pas un dieu moralisateur, comme vous l'êtes, avec un visage de ténèbre, comme vous le savez, c'est pas ça. C'est un dieu assez souriant pour me guiser et pour me faire gagner aux échecs. Échecs, par exemple. Voilà, c'est une plaisanterie. Bon. Ça. Et je te laisse la parole, Gérard, pour l'histoire de la Chahide. La Chahide. Chahide. L'histoire dans la Palestine.
Ah, de la Palestine. Ouais. Ah oui. Mais entre-temps, là, je suis tombé sur une phrase qui me fait rigoler, mais que je trouve tout à fait impeccable. De lui, hein. Ouais. À mon avis, la famille, c'est probablement la première cellule criminelle et la plus criminelle. Mais c'est presque une digression. Oui, donc, pour Leïla Chahide, ça amène, parce qu'il y a... Il avait une personnalité tellement riche, cet homme, il y a beaucoup de choses à raconter sur son rapport à l'argent, son rapport au voyage, parce qu'il a énormément voyagé. Il a traversé toute la France, il a traversé toute l'Europe, il a traversé l'Afrique du Nord, et il a résidé en Palestine. Et là, il a rencontré Leïla Chahide, qui était quand même la représentante au niveau européen, enfin, qui est toujours la représentante au niveau européen des Palestiniens. Et donc, il a fait deux séjours là-bas. Et c'était alors son premier séjour. Apparemment, il aurait connu un petit peu le gynécée, parce que c'était des femmes maghrébines, arabes. Et donc, c'était un autre rapport aux femmes, quoi. Apparemment, il s'est passé quelque chose. Et puis, vers la fin de sa vie, il avait un cancer de la gorge. Il a écrit à Leïla Chahide et il voulait retourner en Palestine pour comprendre ce qui se passait. Là, on était en 82. Ouais, oui. Et donc, elle voulait pas qu'il vienne parce qu'elle avait peur que ça se passe mal. Et il a quand même réussi à la convaincre. Il est allé là-bas. Et en passant par la Syrie, par Damas, c'est un endroit où il avait déjà vécu dans le passé. C'est là où il a appris l'arabe, d'ailleurs. En passant par Damas avec Leïla Chahide, après, ils sont rentrés en Palestine. Ils sont allés, effectivement, à Beyrouth. Et ils étaient dans un hôtel comme ça. Et le lendemain ou le surlendemain, il y a eu le massacre de Shamra et Shatila. Ils ont voulu aller voir. Et là, il y avait quand même l'armée israélienne qui protégeait les phalanges catholiques, qui était en train d'assassiner les Palestiniens qui étaient réfugiés dans ces deux camps. Et on ne les a pas laissés rentrer. Et le surlendemain, ils ont pu rentrer. Ça n'avait pas encore été nettoyé. Et là, ils en sont tombés quasiment, mais sans exagération du tout, hein, quasiment malades tous les deux, quoi. Il aura fallu un an à peu près pour s'en remettre. Parce qu'ils ont vraiment vu quelque chose de très, très fort, quoi. Et ils étaient déjà amis avant, donc c'était Leïla et Jean, Genet. Et comme elle vivait au Maroc, lui, à ce moment-là, il avait acheté une maison à Rabat. Il avait fait construire une maison pour un mec qu'il aimait beaucoup sur la falaise, entre Rabat et l'océan. Et dans ce coin-là, d'ailleurs, il y a Il y a le cimetière espagnol de Larache, L-A-R-A-C-H-E, et c'est là où il est enterré, parce qu'à la fin de sa vie, parce qu'il est mort à Paris d'un seul coup, et on ne savait pas où le mettre. Il avait simplement dit qu'il ne voulait pas être enterré en France. Et c'est son avocat qui a eu l'idée de l'envoyer là-bas. Et à l'époque, c'était Hassan II, je crois, qui était le roi du Maroc, qui a tout à fait été d'accord avec ça. Donc, il repose là-bas. Et pendant les deux dernières années de sa vie, donc, comme Leïla était à Casablanca, à côté de Casablanca, et lui était à côté de Rabat, il se voyait très, très régulièrement. Et elle raconte ses rencontres avec une émotion. Elle était beaucoup plus jeune que lui, elle devait avoir au moins 20 ans de moins que lui. Et elle parle de lui avec une émotion étonnante, quoi. Il avait beaucoup d'humour et il décomposait les mots, il s'amusait. Mmh. Il avait le fils, son ami pour lequel il a fait construire une maison, il s'était marié entre-temps, il avait eu un enfant. Mais, et il adorait ce moment aussi, des choses nouvelles.
Excuse-moi, là j'interviens rapidement. Voyez comme les Faidein sont beaux. Certainement leur révolte me satisfait. Celle des Panthères Noires aussi. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu rester aussi longtemps avec eux si leur physique avait eu moins d'attrait. C'est tout Jean Genet. C'est bon, voilà. Pour moi, c'est parti de tout, quoi. Enfin, c'est une implication, donc investissement dans la bagarre, quoi. Voilà. Et c'est sûr que l'époque, comme il dit, à un moment, les Black Panthers, imaginez les visages des Blancs aux États-Unis qui se trouvaient dans l'ascenseur avec un Black Panther, avec cheveux hirsutes, la barre de droite, truc. Donc, c'est un décalage qui a beaucoup plus Jean Genet, ça. Voilà, pour dire.
Bon. Il a aussi vécu...
Non. Voilà, on vit, au revoir.
Ah,
ouais.
Au revoir.
Bon. Comme tu veux.
Ouais. D'accord. Ouais.
Ha ha ha!